Voici les titres du journal.
Une tour venue d'un autre temps donne des airs londoniens à la tour de paix, la tour vagabonde. Réplique miniature du théâtre du Globe a été installée sur le quai Roussy. Elle servira d'écrin au festival de la tour jusqu'au 3 octobre. Les yaourts Dubesson, Bréguy à Trois-Torrents sont finalistes pour le prix Montagne 2021. Le gagnant a été désigné aujourd'hui. Avant de connaître le résultat, Léo Journeau et Guillaume Abbé ont visité l'exploitation familiale. La Semaine du Goût a présenté son programme hier. Du 16 au 26 septembre, les jeunes seront mis en avant et c'est Genève qui sera la ville d'honneur de cette 21e édition. Nos amis, les insectes pullulent, mais leur population manque de diversité. C'est en substance ce que raconte un rapport qui a été présenté par un groupe de scientifiques ce matin à Berne. Et enfin en tennis, Belinda Bencic se montre toujours aussi intraitable à l'US Open. Et en basket, la Riviera se mettra ce week-end à l'heure de la Coupe Zana, un tournoi international dédié aux équipes de moins de 15 ans.
Un temps bien ensoleillé prévu pour cet après-midi et pour demain. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Quentin Fray. Bonjour Quentin.
Bonjour Axel, bonjour à tous. La Tour de Paix devient une vitrine du théâtre le temps d'un mois. Le coup d'envoi de la deuxième édition du Festival de la Tour a été donné vendredi. L'écrin de la manifestation qui durera jusqu'au 3 octobre, la Tour Vagabonde, théâtre élisabétain itinérant conçu sur le modèle du théâtre du Globe londonien. Elle a été installée sur le quai Roussy, au bord du lac. À l'intérieur, le public pourra notamment découvrir une adaptation des Trois Mousquetaires, le nouveau spectacle de Jacques Weber, ainsi que du théâtre d'improvisation. Mais la manifestation voit plus grand, les explications de Steve Ricard, directeur artistique du festival.
L'idée, c'est de mettre le théâtre en avant, le théâtre de texte, mais autour de tout ça, d'avoir plein d'activités, de musique, d'animation qui permettent de donner un côté populaire au théâtre qui est parfois le théâtre est un petit peu élitiste, un petit peu entre soi. Et puis c'est un art qui a été populaire très très longtemps. Maintenant avec le cinéma et tout le divertissement qui existe, c'est un art qui a tendance un petit peu à se fermer dans sa bulle. Donc l'idée c'est d'attirer le public, les familles, le public populaire, un peu tous les âges, tout le monde au théâtre. Donc on a des spectacles pour enfants, on a pour tout le monde, pour tous les goûts. Mais on reste dans une dynamique de mettre en avant la poésie, le texte, et puis un théâtre de texte, donc un théâtre qui raconte des histoires.
Les organisateurs ont donc imaginé une véritable fête populaire, fête qui vit sa deuxième édition avec un an de retard, Covid oblige. Quel avenir alors pour ce festival de la Tour? On écoute son président, Laurent Weber.
Alors très honnêtement, on n'est pas encore tout à fait au clair là-dessus. Oui, alors le pérenniser, c'est une évidence, idéalement sur un rythme annuel. Maintenant, il faudra voir aussi comment se passe cette année. Effectivement, on a décidé de se lancer malgré les contraintes Covid. Donc on est un petit peu dans l'attente aussi de voir comment le public va réagir. On espère qu'il va nous suivre. On a vraiment besoin que le public réponde présent. On a fait une belle terrasse aussi pour venir ne serait-ce que boire un verre, se détendre, partager un moment. Il y aura une scène ouverte qui permettra également d'apprécier soit des concerts, parce qu'on veut dépasser simplement cette limite du spectacle en soirée.
Et le Festival de la Tour est donc à découvrir, muni d'un pass sanitaire, sur le quai Roussy à la Tour de Paix jusqu'au 3 octobre. Le programme complet à découvrir sur festivaldelatour.ch. C'était un sujet d'Isabelle Bertolini.
Les seuls finalistes romands du prix Montagne 2021 viennent de Trois-Torrents.
Et oui, il s'agit des yaourts Dubesson Bréguy. La famille Chorgue a lancé son entreprise depuis plusieurs années. Leurs produits ont d'ailleurs un certain succès puisqu'ils sont vendus dans de nombreux points de vente de la région. 24 arômes sont proposés et tous les yaourts sont réalisés avec le lait de l'exploitation familiale. Léa Journeau et Guillaume Abbé se sont rendus sur les lieux pour découvrir comment se passe la fabrication de ces produits laitiers.
Alors là, on est à Trois-Torrents, juste à côté du chemin de fer.
C'est pas une gare qu'on va visiter, mais bien une fabrique de yaourts. La famille Dubesson Bréguy est connue dans le coin pour ses produits laitiers. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir la fabrication, direction le local.
Là, on a le pasteurisateur. On met le lait dedans, on le pasteurise pour le rendre propre, si on veut. Et puis après, on le maintient à une certaine température avec des ferments lactiques pour pouvoir le transformer en yaourt. Après
donc on met le lait dans une énorme cuve, c'est ça?
Oui, exactement. La cuve, là, elle fait 300 litres. On laisse 5 heures de temps pour que la masse, elle durcisse et qu'elle se transforme vraiment en yaourt. Ces 5 heures de temps, on met à refroidir la masse tout le reste de la nuit, parce qu'en principe on fait ça le soir. Et après le matin on commence la fabrication à proprement parler.
Comme cette étape a déjà été faite la veille, les yaourts sont prêts à être empaquetés. Enfin, presque.
Comme on voit là, il y a la masse et puis il y a du petit lait à côté qui se sépare. Et ça c'est un peu notre marque de notre produit, c'est qu'on enlève du petit lait. C'est pour ça qu'on a les passoires devant avec des bidons pour extraire justement ce petit lait. Et puis c'est ça qui le rend beaucoup plus crémeux et plus doux.
Étant donné que dans la ferme, rien ne se perd, même le petit lait est réutilisé.
Alors on a des cochons, on redonne aux cochons.
C'est parce que ça aime le petit lait, les cochons.
Oui, c'est une méthode de valoriser le sous-produit.
De ne pas jeter les choses.
Exactement, oui.
Ok.
Ouais,
voilà. Et puis ensuite, maintenant qu'on a le yaourt dans la passoire, on fait quoi?
Alors après, on a à côté des deux passoires, on a un bidon, où une fois qu'on a filtré, on met la masse dedans. Et avec un fouet, on le fouette comme il faut pour enlever tous les grumeaux, les morceaux qui soient bien lisses. Puis juste à côté, après, on a la cœur de la maison, on a la machine à yogourt. C'est une machine qui fait tout. Il va prendre le gobelet, il va mettre l'arôme au fond du gobelet, ensuite à côté, il va mettre le yogourt. Ensuite, il met l'opercule, il le scelle, il met la date, et après, on passe sur l'étiqueteuse qui est à côté.
Cette conditionneuse à yogourt, c'est son vrai nom, peut sortir 800 produits par heure. Mais alors, comment elle marche ?
Alors c'est tout pré-réglé. On a des vis de réglage à plusieurs endroits exprès pour pouvoir changer le dosage ou s'adapter, parce qu'on a, si d'un coup on a un yogourt qui est un peu plus épais que d'habitude ou un peu moins, on doit changer un peu le réglage. Et puis selon l'arôme qu'on met, on doit aussi changer le réglage. Si on en met un mocha, on ne va pas mettre la même quantité que si c'est de la confiture à la fraise, parce que ça serait un peu fort. Et du coup, on adapte comme ça.
Avec tout ça, ça pourrait être facile de créer des produits de qualité en grande quantité. Et bien, pas tant que ça. En effet, pour réaliser un plus grand nombre de yaourts par heure, il faut plus de gens. Mais à Trois-Torrents, dans la ferme des Dubosson-Brégui, c'est plutôt la place qui manque.
On se limite à 2 personnes pour qu'on ait la place. Idéalement, il faudrait être 3, parce qu'on a vraiment... On a été 3 postes, si on veut. On a le pasteurisateur où on s'occupe de préparer la masse. Ensuite, on a la machine qui met en pot. Et puis après, on a encore l'étiqueteuse où derrière, on reprend tous les gobelets manuellement, qu'on met dans des caisses, qu'on étiquette les caisses. Du coup, l'idéal, ça serait d'être 3, mais bon, on n'a juste pas la place.
Et si la famille Dubosson-Brégui manque de place dans les locaux, leurs yaourts ont en tout cas trouvé la leur dans les commerces régionaux.
Et le gagnant du prix Montagne 2021 est connu depuis ce matin. Il s'agit des fabricants de ski appenzellois Timber. Et même si la victoire n'a pas été pour la famille Dubosson-Brégui, rien que le fait d'être nominé a déjà permis à l'entreprise de s'offrir une bonne visibilité dans le canton et bien au-delà.
La semaine du goût sera de retour du 16 au 26 septembre.
Quelques 3000 événements auront lieu partout en Suisse. À Monthey, un marché équitable aura lieu le samedi 18 septembre. Près de 30 animations se dérouleront également à Lézin, où le café, les raviolis, les burgers et autres bouts de face seront mis à l'honneur. Cette année, l'accent est mis sur les jeunes. Avec l'opération 1 an et demi, les enfants auront droit aux mêmes plats que leurs parents au restaurant sous forme de demi-portions et à moitié prix. Des bons jeunes permettront également à des moins de 25 ans de profiter d'un menu gastronomique pour 60 francs. L'hôtel Victoria de Glion ou Denis Martin à Vevey participent à l'opération. Des opérations qui ne sont pas anodines, comme l'explique Joseph Ziziadis. Il est le directeur de la Semaine du Goût.
Ah ben je crois que c'est essentiel pour le futur. D'ailleurs, tous les grands chefs vous diront, pour nous, c'est notre clientèle du futur. D'entre 16 et 25 ans, se retrouver avec un menu à 60 francs, qui est parfois évidemment offert par les parents, mais en fait, d'avoir des tables entières, des restaurants entiers qui réservent une soirée que pour les jeunes. Et quand vous entrez dans une salle où il n'y a que des jeunes de moins de 25 ans qui sont dans la salle, je peux vous dire que tout d'un coup, ça vous fait un sacré coup. Parce que ça montre à la fois l'intérêt et puis aussi, ce sont ces gens qui vont faire la nourriture du futur. Et il faut qu'ils s'habituent aussi à la fois à être reçus, à entrer en contact avec une table dont on n'a pas l'habitude d'aller régulièrement. Et je crois que la gastronomie passe aussi par là, parce que les grands chefs ont un effet d'entraînement sur les autres.
Cette année, la ville d'honneur de la Semaine du Goût sera à Genève et le parrain de la manifestation est Philippe Chevrier. Le chef étoilé voit les habitudes changer et la demande pour des produits locaux de saison augmenter. Et il n'hésite pas à plaider pour les restaurants lorsqu'on parle du bien manger. Ceci malgré le coût que cela peut représenter pour les consommateurs. Philippe Chevrier.
Alors je dirais que des fois, je vais mettre un petit peu en avant notre profession, je dirais que des fois ça coûte moins cher d'aller au restaurant que de faire à manger chez soi. Donc je pousse un peu les gens à aller des fois plus au restaurant, parce que quand on voit ce qu'on a des fois, un plat du jour à 20 francs dans un restaurant, avec tout ce que ça comporte comme travail et comme produit, je pousse les gens à dire mais effectivement, les restaurants sont pas si chers que ça. Et puis c'est vrai que ça représente un peu de temps quand il faut préparer à manger, mais après il faut choisir, est-ce qu'on veut bien se nourrir, ou passer plus de temps dans ses loisirs. Et puis bien manger, c'est pas forcément manger cher. On peut avoir des produits d'excellente qualité et vraiment bon marché finalement.
Et toutes les infos sur la semaine du goût sont disponibles sur le site goût.ch. C'était un sujet de Joël Espy. Une explosion est survenue ce dimanche à Neuville. Un témoin l'a entendu vers 4h20 du matin sur le site de la société Holcim. Il s'est rendu sur place en fin de journée et a constaté des dégâts matériels. La police confirme par ailleurs que personne n'a été blessé. Les causes de l'explosion ne sont pas connues. Aucune substance nocive n'a été propagée dans l'air. Il n'y a donc pas de danger pour la population et un appel à un témoin est lancé. Toute personne disposant d'éléments susceptibles de faire avancer l'enquête est invitée à contacter le centre d'engagement et de transmission de la police cantonale vaudoise au 021 333 5 333. Le groupe de travail chargé de préparer le canton de Berne à vivre sans Moutier a présenté aujourd'hui ses premières conclusions. L'administration et les lieux de formation du Jura bernois et de Bienne vont être organisés selon un principe de concentration régionalisée. Les travaux menés dans le cadre du projet Avenir Berne Romande avancent à un rythme soutenu d'après le groupe de travail et ses responsables. L'objectif est de conserver dans la région les emplois et les services de la population tout en les modernisant et en les regroupant au sein de plusieurs pôles de compétences qui formeront un réseau. L'équilibre entre le Jura bernois et Bienne doit absolument être préservé.
Dans un autre registre, la situation des populations d'insectes en Suisse est préoccupante.
Et oui, c'est en tout cas l'impression d'experts et il semblerait que cela soit corroboré par le premier rapport détaillé et complet sur le sujet. Il a été livré ce matin à l'Académie des sciences naturelles à Berne par un groupe de scientifiques. Davantage que le nombre total d'insectes, c'est leur diversité qui est en danger. Les explications à Berne de Serge Jubin.
Ce n'est pas évident de se faire une idée précise de la situation des insectes en Suisse. Ils sont entre 40 et 60 000 espèces, 1153 sont sur liste rouge et, disent les experts, près de 60% de ce millier d'espèces à surveiller de près sont menacées. Et pendant que la diversité des espèces se réduit, certains insectes communs qui aiment la chaleur pullulent. Cette uniformisation est constatée aussi chez les oiseaux et pour les plantes. Les causes du déclin, là aussi les scientifiques confirment les évidences, la perte continue d'un milieu adéquat, la dégradation des habitats qui restent en cause, la surfertilisation des sols, les pesticides, la pollution lumineuse, le réchauffement climatique et les espèces envahissantes. Pour tenter d'inverser la tendance néfaste, les experts livrent un programme en 12 points où toutes les mesures doivent être mises en place en parallèle. On ne peut pas se contenter d'une ou deux d'entre elles. C'est un programme démentiel. Il faut préserver les habitats et les interconnecter, réduire l'emploi de pesticides, d'azote, de phosphore, la pollution lumineuse, adapter les modes d'exploitation des sols et des forêts, des lieux humides et des prairies sèches. Par exemple, mieux vaut laisser sur pied un arbre sec qu'étaler au sol les branchages. Il faut encore développer le suivi, les monitorages, la recherche scientifique et rien que cette dernière mesure dit l'ampleur du défi, il faut conjurer le changement climatique.
Et voilà, c'était des explications de notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
L'USS réclame un retour d'ascenseur.
Et oui, après avoir fourni des efforts importants pendant la crise, les travailleurs doivent profiter du retour à une conjoncture favorable selon l'Union syndicale suisse. La grande majorité des branches est en effet revenue à une situation conjoncturelle favorable avec une activité qui a repris et des entreprises qui font à nouveau des bénéfices. Parallèlement, une augmentation du renchérissement se profile. L'inflation sera d'environ 1% pendant les mois de négociation salariale. L'USS demande donc des augmentations de salaire de 2% ou alors de 100 francs par mois au minimum. L'ONU a besoin de plus de 600 millions de dollars jusqu'à la fin décembre pour aider les Afghans. Elle a lancé cet appel à quelques jours d'une conférence ministérielle humanitaire organisée lundi prochain à Genève. 18 millions d'Afghans, soit la moitié du pays, ont besoin d'une assistance humanitaire. L'idée est de leur venir en aide à plusieurs niveaux, nourriture, assistance ou encore en soins. L'enveloppe totale comprend 413 millions de dollars qui font partie du 1,3 milliard déjà demandé pour cette année, mais qui n'a pas encore été versé.
Et on reste en Afghanistan.
Oui, les talibans ont de nouveau promis aux Américains qu'ils laisseraient les Afghans, détenteurs de passeports valides, qu'ils souhaitaient quitter librement le pays. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken en visite au Qatar. Pourtant, la pression est maintenue sur l'administration Biden. De nombreuses personnes, dont des Américains, étant toujours bloquées à l'aéroport de Mazar-i-Sharif dans le nord de l'Afghanistan. Sur le plan politique, la composition du nouvel exécutif taliban se fait toujours attendre. Analystes estiment que les islamistes ont eux-mêmes été pris de court par la rapidité de leur accession au pouvoir et n'ont pas eu le temps de préparer la suite. En tennis, Belinda Bencic ne connaît pas la moindre baisse de régime à l'US Open. La Saint-Galloise s'est qualifiée pour la troisième fois de sa carrière hier pour les quarts de finale à New York. Pour valider son ticket, elle s'est défaite de la Polonaise Iga Świątek, numéro 8 mondial. La Suissesse, l'a emportée en 2-7, 7-6, 6-3. Elle n'a ainsi toujours pas égaré la moindre manche dans ce dernier rendez-vous du Grand Chelem de la saison. Pour Belinda Bencic, tous les voyants sont donc ouverts au moment d'aborder les quarts de finale de cette US Open 2021.
Je suis très fière de pouvoir atteindre à nouveau les quarts de finale. C'est aussi une joie et un soulagement de pouvoir être en deuxième semaine du tournoi. J'espère que ça va continuer comme ça, que je vais garder le même feeling que j'ai eu durant mes derniers matchs, même si ça a été un peu compliqué contre cet adversaire. Mais pour le moment, tout se passe au mieux.
C'était des propos recueillis par notre consoeur Hélène Scott-Smith et traduits par Angela Veufray. En quête de finale de l'US Open, Belinda Bencic se mesurera à la jeune Britannique Emma Raducanu, une joueuse issue des qualifications.
En basket, 14 équipes de toute l'Europe participeront ce week-end à la deuxième Coupe Zana sur la Riviera.
Organisée par Blonay Basket, ce tournoi international réservé aux formations de moins de 15 ans accueillera plus de 200 joueurs et joueuses. Des clubs de Serbie, d'Espagne, de France ou encore d'Italie seront la partie, ce qui annonce des affiches de prestige pour les participants suisses engagés samedi et dimanche dans les salles de Blonay, Saint-Légier et Vevey. Mais en cette période de crise sanitaire, ce rendez-vous offre surtout la possibilité à toutes ces équipes de pouvoir à nouveau prendre part à une compétition internationale. Les explications de Volker Thiemann, responsable du comité de pilotage de la Coupe Zana et président de Blonay Basket.
C'était un joli feedback des clubs en principe partout en Europe. On pouvait sentir une sorte de cri de jouer parce qu'ils ont fait la pause et c'était horrible, surtout pour ces sportifs-là, ne pas avoir joué. Parce qu'on ne peut pas remplacer par un tour. On peut faire le meilleur entraînement, ce qui n'était peut-être même pas possible pendant 2-3 mois, mais pas de match pour des équipes comme par exemple, j'ai parlé avec le coach d'Alba Berlin, ça fait une année sans match. Alors ça, quand on a parlé avec plusieurs, ils voulaient tous venir. Alors ils étaient aussi impressionnés par l'engagement et je crois qu'on a créé aussi une certaine réputation dans la scène, comme quoi que là, à la Riviera, il y a quelque chose qui se crée, parce que c'est bien d'organiser ça dans des conditions telles quelles.
Ce tournoi, alors, il concerne aussi bien les jeunes équipes masculines que les jeunes équipes féminines. Là aussi, c'était une volonté, dès le départ, d'avoir aussi bien les garçons que les filles.
Il y a une différence. C'est déjà la densité de haut niveau qui est quand même un peu différente en Europe, en termes de clubs, en termes de nombre. Nous, on a voulu ça dès le début, parce qu'à Blonay, on a les deux. C'est pour cela qu'on est un club assez grand, avec 21 équipes. Bien sûr, il y a une différence. On ne va pas les faire jouer contre les garçons contre les filles, mais ça donne aussi une certaine ambiance qu'à mon avis, si on a des sports où ça se fait avec les garçons et les filles, je trouve ça bien positif et c'est la philosophie du club.
C'était des propos recueillis par Julien Traxel. Cette deuxième édition de la Coupe Zana est donc prévue samedi et dimanche à Blonay, Saint-Légier et Vevey.
En Formule 1, Mercedes alignera un duo de pilotes 100% anglais la saison prochaine.
Et oui, comme prévu, l'écurie allemande a officialisé l'engagement de George Russell pour épauler Lewis Hamilton. La durée du contrat du jeune prodige n'a pas été précisée. De son côté, l'équipe AlphaTauri va miser sur la stabilité en 2022. Le français Pierre Gasly et le japonais Yuki Tsunoda ont été confirmés par le team italien.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Julie Gersner. Accompagnement familial, de couple ou en individuel. Pour des solutions bienveillantes à domicile. Page Facebook Julie Coach.
Un après-midi ensoleillé, c'est ce qui nous est promis par Météo Suisse, avec tout de même la présence de quelques cumulus sur le relief. Il va faire jusqu'à 25 degrés cet après-midi en pleine, 22 à 1000 mètres et jusqu'à 16 degrés à 2000 mètres. Pour demain, toujours un temps bien ensoleillé, quelques cumulus sur les reliefs l'après-midi, avant l'arrivée dans la nuit de mercredi à jeudi d'une augmentation de la couverture nuageuse par le sud-ouest, avec un risque d'averse demain de 13 à 25 degrés en pleine, 11 à 24 à 1000 mètres et de 11 à 18 à 2000 mètres. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.